C'est l'heure de votre émission du jour, le forum du studio Kalangou, le forum, une émission qui vous éclaire sur tous les sujets et qui vous permet de trouver des réponses aux questions que vous vous posez au quotidien. Le choléra, symptômes, prise en charge et prévention, c'est la thématique autour de laquelle nous parlons ce soir. Qu'est-ce que c'est que le choléra? Qu'est-ce qui est à la base de cette maladie? Quels sont les signes cliniques spécifiques au choléra? Comment se fait la prise en charge des cas? Comment limiter la propagation d'une épidémie de choléra? Quelles sont les principales mesures de prévention efficaces pour lutter contre le choléra? Ce sont là, entre autres questions, auxquelles nous espérons trouver des réponses instructives avec notre invité de ce soir, Dr Maman Daou, médecin interniste à l'hôpital national de Niamey. Docteur, bonsoir.
Bonsoir.
Présentation de cette émission à Alassane Kouzi Mahamadou. Mesdames et messieurs, bonsoir, chers auditeurs. Merci de rester fidèles à nos programmes. Le choléra, c'est de cela dont il sera question dans le forum d'aujourd'hui. Contrairement à certaines maladies, un seul cas de choléra constitue une épidémie selon les spécialistes. Alors, le choléra, on sait que c'est une maladie qui survient le plus souvent au cours de la saison des pluies où il y a les ruissellements d'eau qui peuvent charrier beaucoup de saleté. Docteur, bonsoir, merci d'être venu.
Merci, monsieur Alassane.
Et docteur, pour commencer, nous voulons savoir comment définissez-vous le choléra?
En trois mots, le choléra, on peut le définir comme ce que nous, on appelle toxi-infection. C'est une infection qui est due à un germe bactérien qu'on appelle le Vibrion choléra.
Donc, docteur, concrètement, qu'est-ce qui est à la base du choléra?
Le choléra, comme j'ai évoqué au cours de cette définition, la contamination, c'est surtout l'eau et les aliments souillés. C'est eux qui font le lit de cette contamination.
Donc, en quelque sorte, vous voulez dire que c'est l'eau est l'un des réservoirs du choléra.
L'eau est un des réservoirs du choléra. Et comme on l'avait évoqué, tant que le germe du choléra se trouve dans cette eau, ça peut être une source de contamination. Ce même germe peut se retrouver justement dans les aliments par l'homme. Donc, c'est une maladie du péril fécal ou dû à surtout l'hygiène.
Alors, docteur, quels sont les autres réservoirs qu'on connaît aujourd'hui susceptibles de favoriser le développement de la bactérie responsable du choléra?
Ces réservoirs, ils sont connus. Les principaux réservoirs sont, comme je vous ai dit, l'eau et les aliments qui sont souillés. Mmh. Oh, oui. Quand on dit l'eau, ce n'est pas toute eau. Et vous avez évoqué la saison de pluie. Mmh. Qui charrie beaucoup de germes, dont celui du choléra. Donc, à cette période, on est toujours vigilant parce que c'est le moment propice pour une flambée d'épidémie. Et dans ce même sens, quand on est dans certaines situations, par exemple, ou de guerre, du fait de la non-maîtrise de l'hygiène de l'eau, on peut se retrouver dans cette situation. Quand on a toutes les autres types de catastrophes naturelles où on ne maîtrise pas l'hygiène, on peut être face à ce péril qu'est le choléra.
Alors, docteur, comment se transmet le choléra à l'homme?
Cette transmission se fait par ce que nous, classiquement, on appelle la main sale, par voie de contact que ça se transmet. Donc, cela veut dire que s'il n'y a pas de contact, c'est pas comme les autres infections où c'est par l'air que ça transmet. Mais pour le choléra, vraiment, c'est comme on l'appelle manipulé, c'est à travers le contact que ça se transmet.
Et ce contact, vous avez parlé de main sale, ça veut dire que en mangeant quelque chose avec une main sale, c'est ça?
Oui, je veux dire si on mange quelque chose avec une main qui a touché, par exemple, des excréments qui contiennent la bactérie du choléra, ou on a touché une eau qui contient la bactérie du choléra, donc on peut faire passer ce germe à travers cette main sale.
Et aussi en buvant cette eau contaminée, c'est ça?
Cette eau, tant qu'elle est contaminée, elle contient ce vibrion cholérique. Ça aussi, on peut contaminer ça. Et quand on est contaminé, on peut aussi contaminer les personnes qui sont autour de soi.
Alors, docteur, à ce jour, est-ce qu'on sait les groupes cibles les plus à risque, les plus susceptibles de tomber malade du choléra ou bien c'est indifférencié?
Il y a toujours, si on peut l'appeler, un groupe cible. Et le groupe cible, c'est quoi? C'est d'abord, justement, le niveau socio-économique. Plus on a un niveau socio-économique bas, plus le risque augmente pour se contaminer du choléra. Parce que c'est ce groupe-là où, sur le plan hygiène, ou sur le plan disponibilité de l'eau propre, ou c'est sur le plan, comme on dit, le moyen de prise en charge, ils n'ont pas. Donc, vraiment, c'est un groupe qui est très vulnérable pour contaminer le choléra.
Et est-ce qu'on peut, où situez-vous la barre entre les zones urbaines et les zones rurales?
Malheureusement, maintenant, parler de zones rurales et zones urbaines, des fois on est un peu, on a du mal. Pourquoi? Parce que si vous prenez même les villes, autour des villes, il y a des endroits où, sur le plan salubrité, vraiment, c'est pas beaucoup de gens, par exemple, dans certaines grandes villes, comme on les appelle les bidonvilles, sont des sources de contamination pour ces gens parce que, à ce niveau, l'eau potable, c'est un problème. Et quand il y a ce germe, à cause de la promiscuité, à cause du manque de moyens pour pouvoir vraiment prévenir cette maladie, on a quand même cette possibilité de se faire contaminer par ce germe.
Docteur, on a vu aussi pour le cas du Niger que, par exemple, des zones situées le long du fleuve Niger sont souvent victimes d'épidémies de choléra, notamment dans la région de Tillaberi et la région de Dosso.
Oui, vous avez bien vu, parce que si vous regardez ces zones, la population, elle consomme l'eau directement venue du fleuve. Et si vous voyez autour de cette eau-là, les enfants, même les adultes partent faire leurs besoins, tout ça qui fait que cette question d'hygiène revient. Et tant qu'il y a l'eau, il y a manque d'hygiène, ça, c'est un terrain propice qui est favorable justement à la présence de ce vibrion choléra et qui facilite cette contamination.
Comment est-ce que on peut savoir que nous sommes en présence, qu'on est en présence d'un cas de choléra? Je vais dire quels sont les signes cliniques clés qui sont spécifiques au choléra.
Ok, sinon le choléra, pour ce qui est du diagnostic, nous on dit même que c'est un diagnostic qui est facile. Et sur le plan clinique, hein, c'est vrai, des fois il faut aller jusqu'à la biologie, mais sur le plan clinique, il y a 4 signes surtout qui sont les plus fréquents. Le premier signe, c'est d'abord la diarrhée. C'est une diarrhée, pas une petite diarrhée, vraiment c'est une diarrhée, et pour les formes graves, une diarrhée que nous on appelle profuse, c'est-à-dire en grande quantité et liquide. Et cette diarrhée, elle a même une particularité en termes de, on l'appelle même dans le jargon médical, une diarrhée eau de riz. C'est comme si c'est de l'eau de riz qui est en grande quantité. Deuxième signe, c'est le vomissement. Et même le vomissement aussi, c'est des vomissements que nous on appelle incoercibles, c'est-à-dire qui ne s'arrêtent pas.
Qui viennent comme
qui
ça.
Qui viennent comme ça, en jet. Oh oui, d'une manière spontanée et qui continue. Qui ne s'arrête pas. Autre troisième signe, vous pouvez avoir des douleurs abdominales, les douleurs au niveau, et qui ne sont pas soulagées même après la diarrhée. Le dernier signe, c'est un signe, malgré que c'est une bactérie, il n'y a pas de fièvre.
Donc, il y a l'absence de fièvre.
Oh, ouais. Donc, quand on a la fièvre, il faut chercher d'autres maladies. Vraiment, au cours du choléra, généralement, il n'y a pas de fièvre. Donc, on voit, c'est les quatre signes surtout qui sont présents chez cette maladie.
Ces signes cliniques, docteur, ont quelles conséquences sur la santé et pour l'homme?
Comme je vous dis, dès qu'on a ces signes cliniques, maintenant, on peut aller chercher au laboratoire pour vérifier si c'est le germe du choléra. C'est vrai, ce n'est pas n'importe quel laboratoire qui a cette possibilité de le confirmer. Mmh. C'est surtout, il y a plusieurs types de virus. Nous, on les appelle des sérotypes. Il y a plus d'une soixantaine, mais dont deux sont surtout présents. Et dès qu'on a des vomissements, des diarrhées liquides comme ça, là, vous voyez que la perte de liquide dans l'organisme est importante. Mmh. Et la perte de liquide, là, s'accompagne encore avec d'autres substances nutritives de l'organisme, comme le sel, comme que le sodium, c'est-à-dire comme le potassium, comme le bicarbonate, comme
qui sont
le chlore,
utilisés par l'organisme.
Utilisés par l'organisme pour son fonctionnement. Mm-hmm. Donc, en plus de l'eau, il y a la perte de ces substances, ce qui fait que la personne perd tout son eau. Et quand on perd tout son eau, on perd toute sa force. Hein. On devient ce qu'on appelle déshydraté, avec une perte d'autres substances encore. Et la personne, rapidement, à moins de quelques heures, hein, ça peut
pas
être
journée.
De 2 heures hein, à 6 heures, hein, la personne peut être alitée.
À moins de 2 heures.
À moins de 2 heures, tous les signes peuvent commencer.
La mort s'ensuit souvent, docteur?
Ah, ça, pour les formes graves, on a des taux de décès qui est élevé. Le choléra a une particularité. C'est une maladie où le diagnostic est facile, où le traitement, si on le fait malgré sa gravité, bien, on passe de 55% à 95% de risque de mort. Quand on ne fait rien, 95% on peut mourir, et quand on fait quelque chose en quelques heures, le taux de décès est très très
réduit.
Oh.
Nous poursuivons toujours cette émission, le forum sur le choléra, donc mode de transmission, prise en charge et prévention. Nous abordons, docteur, maintenant la deuxième partie de cette émission relativement à la prise en charge des cas de choléra. Le choléra, docteur, en tout cas, est réputé être une maladie mortelle. Une maladie mortelle, elle n'est pas pour autant une maladie fatale à ce que je viens de comprendre de votre raisonnement. Cela dit, on peut en guérir. Docteur, dites-nous à quelles conditions?
Donc, comme on l'avait dit dans pour les signes cliniques, hein, d'abord, le traitement le plus urgent, c'est de lutter contre cette perte de liquide et des substances qui sont importantes pour l'organisme. Le premier signe que vous avez vu, on n'a pas dit qu'il faut d'abord traiter la bactérie. C'est d'abord lutter pour que la personne ne bascule pas vers un pronostic vital fatal. Donc, tout ce qu'on fait, il faut apporter. D'abord, il y a deux types de traitements pour le choléra. Vous savez, il y a le traitement curatif, c'est-à-dire qu'il faut traiter l'individu qui a le choléra. Mais qui dit choléra dit épidémie. Donc, il faut prendre des dispositions pour l'individu qui est malade, et en sachant qu'on aura d'autres malades. Et dans ce sens, on ne doit pas se limiter au traitement de l'individu seulement. Il faut penser après, prendre des dispositions. C'est quoi ces dispositions? Il faut mettre une équipe en place, parce qu'il y aura plein de cas qui vont venir. Il faut mettre une unité de prise en charge. Et l'unité de prise en charge, généralement, on fait une répartition en deux unités. Une unité qui prend les cas légers, où on peut même leur donner par la bouche le traitement. qu'on appelle avec les substances comme les SRO, et des unités de prise en charge pour les cas graves où on ne peut pas passer par les comprimés, les vomissements ne peuvent pas marcher, ne peuvent pas laisser faire passer même le liquide par la bouche. Il faut des par voie, nous qu'on l'appelle parenterale, c'est-à-dire par voie d'injection de sérum. Et ces unités-là, quand on les monte sur le plan généralement national, il faut monter une équipe qui va contrôler le fonctionnement de ces unités-là. Et on peut commencer sur le plan individuel d'abord. Il faut apporter beaucoup de liquide. Beaucoup. Finalement, même si c'est le sérum, on ne met même pas une seule voie. On met 2 à 3 voies pour que vraiment les pertes liquides soient rattrapées le plus tôt possible. Et vous savez, un malade qui fait les selles, là, même le lit, là où on le place, hein, il faut un lit trouillé. Ou dès qu'il fait les selles, ça va verser dans un récipient
qui est au-dessus,
qui est en dessous du lit. Et le récipient permet de quantifier la quantité de liquide qu'il a perdu. Ça peut faciliter aussi l'apport qu'on va lui faire de liquide. Et ça va nous permettre de voir est-ce que, en fonction du traitement qu'on lui fait, les choses sont en train de s'améliorer ou non. Oh oui. Donc ça permet d'ajuster vraiment la prise en charge. En même temps qu'on met du liquide, on met aussi des autres substances, comme je vous ai dit, le sel, le potassium, qui sont perdus aussi par ce patient.
Le sel que nous consommons dans nos mets de tous les jours.
Oui, c'est le même type de sel, mais comme il ne peut pas prendre par les comprimés dans les formes graves, vous êtes obligé de les mettre par la perfusion. Plus aussi le potassium qui se trouve aussi dans beaucoup de nos alimentations. Et quand on fait en sorte que sur ce plan on maîtrise justement la perte de liquide là, ça on fait plus de 60% du travail.
Dans le processus de la guérison.
Dans le processus de la guérison. En gérant ce côté, c'est comme si on sauve la vie au malade. Et maintenant, il y a quelques fois, on peut se dire il faut traiter le germe. Mais en réalité, sauf dans des cas sévères, des cas particuliers, on ne met même pas de traitement d'antibiotiques. Le plus important, je vous dis, c'est l'apport qu'on fait de liquide et d'autres substances pour pouvoir stabiliser le malade, pour éviter ce que nous, on appelle le choc hypovolémique, parce que le malade, quand il perd trop de liquide là, ça, au niveau du sang, toutes les constantes là vont baisser, vont chuter, comme la tension artérielle, elle va baisser, elle peut même faire comme si on ne peut même pas la retrouver. Donc, toutes ces constantes là, toutes ces constantes, on va les contrôler pour voir comment il se remonte, et en ce moment on est sûr qu'on a maîtrisé cette maladie.
Alors, docteur, je voudrais savoir, vous l'avez dit, que quand on est en présence de ce cas, la prise en charge, le premier geste, en tout cas médical, c'est d'abord d'essayer de compenser cette perte en eau qui sort par les vomissements et la diarrhée. Est-ce que cela suffit pour arrêter, c'est la sans traiter le germe? Vous l'avez dit, dans certains cas, le germe responsable donc du choléra est souvent traité par des antibiotiques. Est-ce que pour tous les cas, il faut traiter le germe, ou dans certains cas, quand on arrive à compenser les pertes en eau, cela suffit?
Ouais. Dans certains cas, on n'a même pas besoin de mettre les antibiotiques. Il y a des cas, comme je vous dis, sévères, où on peut l'utiliser, et même les antibiotiques, il y a vraiment une règle chez l'enfant, ce n'est pas la même chose qu'on utilise que chez l'adulte. Chez la femme enceinte, ce n'est pas la même chose qu'on utilise que chez les autres. Donc, c'est des cas vraiment particuliers, spécifiques, mm-hmm. qui font qu'on utilise ces antibiotiques. Mais vraiment, dans la majorité des cas, la compensation de ces pertes liquides font vraiment régler le problème de cet individu, de ce malade, en sachant même que un cas de choléra, on a dit, ça, il faut chercher d'autres cas. Parce qu'une seule personne peut contaminer 10 ou 20 personnes. Mm-hmm. Donc, si celui-là est malade, il faut s'attendre à avoir d'autres cas. Et donc, il va falloir, dans ce sens, prendre des dispositions pour gérer ceux qui, éventuellement, peuvent venir. Oh, oui, mm-hmm. cette maladie.
Est-ce pour cela que, dans certains cas, on dit que pour le cas du choléra, un seul cas peut constituer une épidémie.
Oui, un seul cas, comme je vous dis, autour de ce seul cas, vous avez au moins 10 à 20 qui peuvent être contaminés. Et si 10 se contaminent, chacun des 10-là va contaminer 10 ou 20 aussi, et ainsi de suite. Hein. Et ça va se propager. Mmh. Et si on prend pas des dispositions, comme je disais, le diagnostic, il faut le faire rapidement. Le traitement, il faut le faire rapidement pour circonscrire. Si on fait bien les choses en 3 semaines, par exemple, on peut circonscrire le foyer de choléra et maîtriser ce qu'on, si on l'appelle l'épidémie. Mais si on ne fait pas cette rapidité d'action, là, on va se retrouver, vous savez, dans le monde, on a pratiquement 7 épidémies qui nous ont dévasté beaucoup d'individus. Ou certains pays, on a eu plus de 25 000 morts. Hein. Mm-hmm. Donc, depuis 1971 que ça a commencé, et nous, en Afrique, c'est surtout à partir de 1971. Et l'épidémie même a commencé en Indonésie en 1961. Mm-hmm. Et on a eu 7 grandes épidémies. Où le taux de mortalité était très élevé.
Relativement au choléra ou à d'autres...
Au choléra seulement. Oh oui. Il y a eu 7 grandes épidémies et qui ont dévasté vraiment beaucoup d'individus. Mmh. Donc il faut faire en sorte de ne pas avoir au-delà de ces 7-là d'autres grandes épidémies. Mmh. Donc il faut les circonscrire chaque fois. On a les moyens vraiment... Pour pouvoir le faire, ça, c'est le côté individuel qu'on a parlé.
Avant de passer à l'autre aspect dont vous avez parlé, le côté collectif, docteur, je voulais poser cette question. Vous avez dit la prise en charge précoce, mais pour cela, il faille que les gens comprennent d'avance qu'ils aillent vite au niveau des centres de santé.
Oui.
Et est-ce que avant d'y aller, est-ce que la compensation à nous dont vous avez parlé, est-ce que les gens peuvent le faire à domicile avant d'y aller ou pas?
Ah oui, même à domicile. Il y a plusieurs formes, comme je vous dis. Les formes graves, là, c'est autour de 10%. Hein. Mm-hmm. Oh, oui. Vous avez des formes qui sont moins graves, qui sont autour de 40%, et d'autres même qu'on appelle... un peu la cholérine, où les signes sont un peu atténués. Oh oui. Mais si c'est les formes atténuées, même à la maison, il faut sensibiliser les gens pour que, en cas de diarrhée, d'ailleurs, n'importe quelle diarrhée a besoin d'une hydratation par voie orale. Il faut toujours qu'on hydrate les gens quand ils ont une diarrhée. Et le seul problème de la forme grave, c'est les vomissements qui empêchent de boire quelque chose. Mmh. Oh oui. Mais même dans ce cas grave-là, dès que ça s'améliore, on passe à la voie orale et la famille vraiment est là pour pouvoir aider à faire ce traitement par voie orale.
Docteur, il y a une solution qui est souvent préconisée par les médecins pour cette hydratation.
Oui, il y a une solution qui est presque un peu à disposition de la population un peu partout, qu'on appelle le SRO, qu'on appelle celle de réhydratation orale. Mm-hmm. Oh, c'est une préparation que maintenant toutes les mamans connaissent. Hein. Mm-hmm. On On ouvre le sachet, on le met dans un litre d'eau potable.
Un sachet de sel.
Un sachet de SRO, ou sel de l'hydratation orale. On le met et ça ne comporte pas que du sel là-dedans. Il y a beaucoup d'autres éléments qui sont perdus par la diarrhée là, qui se retrouvent dans le SRO là. Il ne faut pas que les gens, comme on dit, SRO, qu'ils pensent que c'est que du sel. Non, il y a tout ce qui est nécessaire pour l'organisme et qui sont perdus par cette diarrhée qui se retrouve vraiment dans ce sel de l'hydratation.
Seulement, il s'est dit que pour ceux qui n'ont pas cet SRO à disposition, peuvent utiliser le sel du foyer, du sucre, un peu de sucre et de l'eau.
Oui, ça aussi, vraiment, il suffit qu'on ait un récipient vraiment qui est propre. Oh, oui, oui. Et la tasse, là, les familles, maintenant, elles connaissent même la mesure de ces 1 litre, là. Et puis, ils préparent eux-mêmes à la maison pour pouvoir donner aux enfants. Parce que ceux qui prennent les lourds tribus, et c'est surtout les enfants, vous savez, ils sont plus fragiles que les adultes. Et elles n'épargnent personne, mais surtout, les enfants prennent quand même un lourd tribut pour cette maladie.
Alors, docteur, passons à l'autre aspect. Vous avez dit, là, nous avons parlé des cas individuels. Et quels sont les autres cas, les autres mesures à adopter pour délimiter la propagation d'une épidémie? Vous l'avez dit tout à l'heure que dès qu'on a un cas, il faut s'attendre à avoir d'autres cas. Et donc, les mesures à mettre en œuvre.
Les mesures à mettre en œuvre, comme on dit, et comme je disais, il faut d'abord rapidement créer un comité. Et ce comité, heureusement que nos pays vraiment prennent des dispositions, ils mettent, dès qu'il y a une épidémie, c'est-à-dire ils mettent le comité déjà national qui est sur place. Donc, même après une épidémie, ce comité-là, il est là, comme
en
on
attente,
dit, en attente aux aguets, pour pouvoir gérer ces éventuelles épidémies. Mmh. C'est vrai, il n'y a pas que le choléra, d'autres épidémies aussi. Oui. Donc le comité-là, il est toujours là, prêt à répondre à toute sollicitation. Après ce comité national-là, au niveau régional aussi, on l'a, au niveau des départements, et vous avez aussi au niveau de l'institution, par exemple, si vous avez le choléra, le malade, vous allez l'amener ou vous n'allez pas l'amener là où on hospitalise
les gens
qui ont d'autres maladies. Oui, il faut le sortir de ce milieu pour qu'il n'y ait pas contamination justement des autres malades. Donc, on fait en sorte que de mettre une unité de soins d'urgence. Et cette unité, il y a une équipe, c'est pas un individu.
Vous l'avez dit tout à l'heure qu'il y a une équipe qui s'occupe des cas graves et une autre équipe qui s'occupe des cas moins graves.
Et dans l'équipe, par exemple, qui s'occupe de cas graves aussi, il y a des infirmiers, il y a des manœuvres, parce que tout ce qui touche le malade là, il ne faut pas après le prendre et l'amener quelque part. Ça peut contaminer. Il faut détruire certaines choses qui peuvent être source de contamination. Mmh. Et dans l'équipe aussi, l'équipe soignante.
Oui.
L'équipe soignante peut se contaminer aussi. Il y a des dispositions à prendre. Et tous ces volets font en sorte que on a toujours, avant l'épidémie, déjà fait des formations pour dire à celui-là, il a une formation pour au cas où il y a une épidémie de telle chose,
il peut
pouvoir faire ça pour pouvoir intervenir. Donc toutes ces équipes, on les met à disposition pour pouvoir agir et circonscrire le foyer.
Et au Niger, la marche, ça existe à ce jour?
Dans pratiquement tous les niveaux de la pyramide sanitaire, ça existe. Hein. Donc,
hôpital de district,
centre de santé intégré, et au niveau national même, il y a cette structure qui est là. Et au niveau de toutes les institutions, si vous partez dans une institution comme l'hôpital national de Niamey, il y a des gens qui sont là pour pouvoir, dès qu'il y a l'alerte, prendre des dispositions pour éviter, par exemple, que le malade soit dans un centres où il y a d'autres types de maladies, on fait rapidement une autre unité d'urgence pour pouvoir l'isoler et puis le prendre en charge.
Docteur, dans les cas où on fait une sorte de retrait pour des cas de choléra, notamment une sorte de mise en quarantaine, on va dire, on a vu souvent qu'il y a des accompagnants pour les patients. Et est-ce qu'il y a des dispositions précises, des consignes précises qu'on donne à ces accompagnants malades pour ne pas être contaminés?
Ah oui, ça... Justement, cette éducation, par exemple, ou cette sorte de d'éducation thérapeutique, c'est pas uniquement aux malades, hein, parce que les accompagnants qui sont censés, vous savez, ailleurs, hein, c'est pas le cas. Dans les pays qui sont développés, il n'y a pas d'accompagnants. Donc, c'est le personnel soignant.
Et le patient.
Et le patient, à 100%.
Mais chez nous... On ne peut pas laisser...
On risque de ne pas pouvoir vraiment s'en sortir. Le temps que le personnel soignant aille pour chercher même un produit ou quelque chose comme ça peut faire en sorte que... Ou le malade, s'il va mal, qu'il tombe.
Oui.
Et deux fois, même... dans les structures, c'est pas à tous les niveaux que vous avez du matériel adapté, parce que quelqu'un qui est, par exemple, agité ou bien qui a un alitement, il faut pas le laisser seul si c'est pas un lit où il y a des barres qui bloquent ça, parce qu'il peut tourner et puis tomber.
Oui.
Donc tout ça, toutes ces choses font en sorte que on sensibilise tous les accompagnants pour pouvoir minimiser les risques de contamination.
Entre autres, est-ce que, docteur, on peut déjà avoir une idée de ce qu'il est déconseillé pour un accompagnant d'un cas de choléra de faire ou ce qu'il est conseillé de faire?
Par exemple, l'accompagnant ne doit pas prendre un récipient, par exemple, ou quelque chose que le malade qui a le choléra a touché avec la main. C'est-à-dire sans protection. Parce que s'il prend, cela veut dire que le germe peut
rester sur sa main
et il peut lui-même se contaminer et il peut aussi contaminer d'autres personnes. Si c'est pour s'alimenter, hein, il faut savoir l'alimenter parce que le malade, en cherchant à l'alimenter, il peut aussi vomir. Donc ça aussi, c'est des choses vraiment à prendre en compte pour pouvoir éviter qu'on ait toutes ces substances qui peuvent contaminer l'individu. Hein. Donc, toutes les dispositions sont prises pour avoir du matériel pour certains à usage unique. On l'élimine. Et de sitôt qu'on l'utilise, il faut l'éliminer pour pouvoir minimiser ce risque.
Docteur, nous entamons enfin la dernière partie de cette émission qui concerne notamment le volet prévention. On sait que pour toute maladie, il y a ce volet curatif qui consiste à traiter et le volet préventif. Et pour le cas du choléra, de la prévention, il existe deux types de vaccins. En tout cas, c'est là les spécialistes. Il y a des vaccins. Pouvez-vous nous dire dans quel cas on peut utiliser des vaccins et qui doivent être vaccinés?
Bon, moi, je pense que dans la prévention, il faut mettre deux choses dans la prévention. D'abord, la prévention par l'hygiène.
Oui.
Et après, la prévention par la vaccination.
Par la vaccination.
La prévention par l'hygiène, je pense que c'est la partie la plus importante. Parce que si on a une très bonne hygiène, si on évite, c'est-à-dire de l'eau souillée, on évite des aliments souillés, on peut avoir de l'eau potable. Et ce niveau-là, c'est vrai, c'est pas l'individu seulement. Parce que il faut aussi le politique, parce qu'il faut avoir, par exemple, à faire les trucs de comment des adductions d'eau potable en fonction des niveaux. Il faut aussi sensibiliser la population pour ces genres, c'est-à-dire il ne faut pas que la population aille boire n'importe quelle eau. Comme on a dit, le long du fleuve, les enfants qui partent à côté de l'eau pour pouvoir faire leurs besoins, et même certains adultes, il faut les sensibiliser pour éviter justement ces risques de contamination. Et c'est seulement quand on finit ça qu'on va songer à la vaccination.
Parce que là, docteur, pour le cas de Provence, pour les cas des gens qui vivent autour du fleuve, souvent c'est difficile, c'est même impossible qu'on empêche, qu'on leur dise de ne pas boire l'eau du fleuve. Seulement, d'autres mesures sont préconisées pour que cette eau puisse être buvable.
Oui, d'autres mesures. D'abord, on ne peut pas dire de ne pas boire l'eau du fleuve. Il faut éviter de souiller l'eau du fleuve. Oui, c'est d'abord ça.
Et en évitant notamment d'aller faire les besoins, notamment uriner ou...
C'est ça. Oui, c'est d'abord ça. Et on sait, justement, quand même, Dieu merci, il y a beaucoup de... d'ONG, à l'État, et à qui font des efforts quand même pour faire. Pour certains, le fait de boire l'eau du fleuve, c'est pas parce que il n'y a pas l'eau potable. Pour certains, parce qu'ils minimisent les risques. Mm-hmm. Oh oui. Je dis que non, ça fait rien. Mm-hmm. Depuis, mes parents ont bu ça.
Ils n'ont rien eu. Donc d'abord, vous l'avez dit, c'est d'éviter de souiller l'eau. Le fleuve.
De souiller l'eau. Mm-hmm. Oh oui. Mm-hmm. Et quand on n'a une eau potable qui est vraiment à distance réglementaire, c'est mieux de l'utiliser. Mm-hmm. Sinon, si vous prenez même l'eau qu'on voit dans les grandes villes, ça peut être de l'eau, par exemple, du fleuve, mais qui a été traitée.
Oh, oui. Et souvent, pour ces campagnes, on a vu que souvent, on demande de bouillir l'eau. C'est aussi
oui, on peut le bourrer et il y a aussi certaines structures quand même qui donnent qui prennent des dispositions pour aider la population à filtrer leur eau. Hein. Mmh. Oh, oui, j'ai vu vraiment, je ne les cite pas, il y a certaines ONG qui font beaucoup d'efforts dans ce sens. Domaine. Et ça aussi, c'est une bonne chose pour pouvoir lutter contre cette choléra.
Le lavage des mains, docteur?
Systématique. C'est ça qu'on appelle. Il faut systématiquement laver les mains. Comme à la période de l'épidémie et de la fièvre hémorragique d'Ebola qui est venue, qui a donné quand même un peu de valeur à ce lavage de mains-là. Il faut systématiquement laver sa main. Que ce soit à la maison, toutes ces habitudes doivent rentrer chez les enfants avant de manger. Et il faut le faire quand on se réveille, il faut le faire quand on fait les selles, il faut le faire quand on fait les urines, il faut le faire. Donc, ça, c'est ce côté vraiment préventif.
Préventif, notamment en ce qui concerne l'hygiène.
L'hygiène. Maintenant, le deuxième volet, comme je disais, c'est la vaccination. Et la vaccination, c'est vrai, c'est jusqu'à présent pas des vaccins à grande échelle. Et pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs raisons. D'abord, il y a le coût. Oh, oui. Mm-hmm. Comme vous disiez, c'est vrai, il y a deux types de vaccins, mais c'est surtout le coût.
Le coût de ces vaccins.
De ces vaccins.
Premier facteur.
Premier facteur. Le deuxième facteur, c'est pas des vaccins, par exemple, qui sont efficaces à 100%. Oh, oui. Et c'est des vaccins pour certains, comme je vous disais, pour le deuxième, il faut faire des rappels. Oh, oui. Pour
après une injection, il faut encore revenir.
Il faut faire une deuxième injection. Dans certains circonstances, il faut faire aussi une troisième injection. Mm-hmm. Et au vu du coût là. De cette vaccination, ce n'est pas préconisé, même l'Organisation mondiale de la santé n'a pas quand même à l'AGSL mis ça. Vous avez vu, même dans nos programmes de vaccination, ce n'est pas une vaccination qu'on positionne vraiment beaucoup, hein. Mm. Mais on sait qu'elle existe et qu'elle est disponible aux besoins. Donc, au cas par cas, on peut pouvoir faire cette vaccination.
et qui doivent être vaccinés si jamais on devrait passer par là.
Même si on devrait passer par là, généralement, c'est pas, par exemple, comme les gens pensent, c'est pas les gens qui sont malades. Généralement, on fait en sorte que c'est autour du foyer. C'est-à-dire les gens qui ont ce risque de se faire, par exemple, prenez l'exemple des agents de santé qui doivent prendre en charge des malades qui ont le choléra. C'est ce fameux camp que je vous ai dit d'urgence qu'on va installer. C'est des agents de santé qu'on va amener et qui seront en contact étroit avec ces malades. Ils ont un risque énorme. Vous prenez l'exemple des membres de famille, de la famille,
notamment
du
les
malade.
Accompagnants dont
les
on a parlé.
Donc on a parlé. Ils sont proches de ces malades, donc vraiment ils ont un risque plus important. Donc s'il y a à faire, il faut cibler cette population.
Alors docteur, quel autre conseil vous avez à donner ce soir à nos auditeurs qui nous écoutent par rapport au choléra? Pour que au moins qu'on puisse avoir, on va dire, des garde-fous nécessaires pour contrer le choléra.
Les conseils que je vais donner, ça, je sais que déjà au niveau, comme on dit, de l'État, les choses, beaucoup de choses sont faites, mais beaucoup de choses doivent être faites. Pourquoi? Parce que l'eau potable, il faut assurer à la population de l'eau potable. Mmh. Si ce côté-là vraiment est garanti, c'est beaucoup de choses. Deuxième chose pour l'État, c'est la sensibilisation. Il faut sensibiliser la population pour qu'elle connaisse les mesures pour pouvoir prévenir cette maladie. Et troisième chose, hein, je reviens à ce qu'on a insisté là, la main propre. Donc le lavage de main doit être quelque chose de réflexe dans toutes nos familles. Il ne faut pas...
Grand petit,
il ne faut pas attendre une épidémie pour dire, ah, il faut qu'on... Non, ça doit être... systématique, un réflexe pour nous tous, grands et petits. Et même si on, dans nos mœurs, on a ce lavage de mains là, systématique, je pense que beaucoup de choses a été fait.
Bien. Fin du forum de ce soir, docteur. Nous sommes donc à la fin de notre émission. Le choléra, cause de la maladie, prise en charge des cas et prévention. Nous étions en compagnie de docteur Maman Daou, médecin interniste à l'hôpital national de Niamey. Nous retenons en substance que le choléra, en tout cas, c'est une maladie très dangereuse qui provoque de la diarrhée, vous l'avez dit, très liquide et des vomissements qui provoque une déshydratation, en tout cas qui peut amener même le patient à trépasser. C'est une maladie qui est réputée mortelle, mais guérissable si elle est prise en charge à temps. Pour prévenir le choléra, vous l'avez dit, vous avez insisté, il n'y a rien de mieux que l'hygiène personnelle et alimentaire, la boisson d'eau potable ou traitée, le lavage des mains qui doit être systématique. Vous l'avez dit, vous avez insisté sur ça, systématique, petit, grand. Il faut que cela devienne une habitude dans nos familles, vous l'avez dit. Et docteur, nous, ça, c'est ça, entre autres, les grands moyens de prévention de cette maladie, vous l'avez dit. En tout cas, il y a un vaccin, il y a des vaccins, notamment contre cette maladie, le choléra. Seulement, ces vaccins sont utilisés dans des cas rares, vu le coût de ces vaccins. Et ce n'est pas tout le monde qui est vacciné, c'est peut-être une population souvent à risque, les personnels traitants et les accompagnants. Merci à vous, docteur, d'avoir été des nôtres. Bonsoir.